midi pile, TU 13h, ici à Paris, bienvenue. C'est l'heure du journal de Nemo en Peace et c'est une première dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Moscou a tiré un missile intercontinental.
Après des tirs de missiles longue portée sur le territoire russe il y a quelques jours, Kiev qui précise que ce missile russe n'était pas équipé d'ogives nucléaires. L'autorité palestinienne, une nouvelle fois découragée, au lendemain d'un veto américain sur une proposition de cesser le feu dans la bande de Gaza. Il n'y a rien qui justifie une telle décision, dit l'ambassadeur adjoint de la Palestine aux Nations Unies. Vous l'entendrez. New York, où une autre question a été posée hier. Faut-il encore envoyer des casques bleus pour lutter contre les gangs en Haïti? Tous les membres du Conseil de sécurité ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et puis, vous ne l'achetez probablement pas aussi cher, mais une banane a bel et bien été vendue à plus de 6 millions de dollars. Le fruit scotché à un mur est l'œuvre de l'artiste Maurizio Catlan. De quoi lui faire garder la banane?
Et avant de développer ces titres, on l'évoquait à l'instant, au Mali, le Premier ministre, aussitôt limogé, aussitôt remplacé.
Choguel Maïga ainsi que tous ses ministres limogés, la nouvelle est tombée par décret présidentiel lu à la télévision d'État que les Maliens, mais aussi probablement le principal intéressé, ont appris le limogeage. Le désormais ex-Premier ministre a fait les frais des critiques virulentes formulées contre la junte au pouvoir ce week-end. Bonjour Serge Daniel.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant local. Serge, c'est un autre Maïga, Abdoulaye, qui a été nommé.
Oui, c'est un Abdoulaye Maïga. Il était jusque-là porte-parole de gouvernement, ministre de l'administration. C'est un dur. On peut dire que le régime se durcit parce que désormais vous avez un chef d'État, un chef de la junte qui est militaire, et vous avez également un chef du gouvernement qui est militaire. Alors, Abdoulaye Maïga, c'est un produit du Pritané militaire, de l'école militaire de Kati, c'est à 15 kilomètres de Bamako. Ministre de l'administration, c'est un amoureux du poète Vigny qu'il cite dans ses communiqués. On se souvient que c'est lui qui a annoncé la rupture avec la France, c'est lui qui a annoncé le départ de l'ambassadeur de France, c'est lui qui a tenu, vous vous souvenez, à l'époque, un discours devant l'ONU est très applaudi. Et donc, c'est un ennemi juré également du Premier ministre qui a été débarqué, Choguel Maïga. Et d'ailleurs, parmi les griefs de Choguel Maïga, il disait « Voilà quelqu'un qui travaille dans mon dos, qui a accordé des récépissés à 100 partis politiques pour soutenir le président de la transition ». Donc, disons que avec sa nomination, désormais, les militaires sont au pouvoir, renforcent leur pouvoir au Mali, ce qui peut laisser présager que Assimi Goïta pourrait être tenté, disons clairement, de se présenter à la prochaine présidentielle.
Merci Serge Daniel. Et encore plus de précision dans une petite demi-heure. Il sera 12h30 à Bamako pour Afrique Midi.
Il n'aura pas fallu longtemps pour attendre. La Russie avait prévenu que son armée riposterait aux tirs de missiles longue portée par l'armée ukrainienne.
Moscou a procédé, comme depuis le début du conflit, au tir d'un missile hypersonique et de missiles de croisière. Mais c'est un autre tir qui fait la une aujourd'hui. Celui d'un missile balistique en direction de Dnipro, une ville située dans le centre-est du pays. Une arme d'une portée considérable et qui peut être équipé d'ogives nucléaires, même si, d'après Kiev, Romain Le Maresquier, ce n'était pas le cas aujourd'hui.
Alors attention, la situation est mauvaise, mais pour autant, les Russes avancent à pas de fourmi. Hein. À ce rythme-là, il leur faudrait 2 siècles pour conquérir l'Ukraine. Donc la seule chose, c'est qu'ils avancent inexorablement et les Ukrainiens n'arrivent pas à les stopper.
C'était Guillaume Ancel, les précisions sur la guerre en Ukraine. L'analyse de Romain Le Maresquier à venir. En tout cas, réaction à l'instant de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui assure que le voisin fou, je le cite, le voisin fou russe utilise l'Ukraine comme un terrain d'essai. Dénonciation à l'instant du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui assure également qu'une expertise est en cours sur ce tir présumé d'un missile intercontinental russe en Ukraine. Ce tir de missile qui marquerait une escalade claire de la part de Vladimir Poutine, fait savoir il y a quelques minutes Peter Stano, un porte-parole de la Commission européenne. J'ajoute que l'armée russe a revendiqué ce matin la prise d'une petite localité près de Kourakové dans l'est de l'Ukraine, un secteur du front où les troupes russes réalisent des avancées depuis plusieurs mois. Est-ce qu'on a retrouvé Le Maresquier, Romain Le Maresquier? On me fait signe que non. On passe donc à cet autre conflit qui ne devrait pas non plus se terminer de sitôt au Proche-Orient. Et pour cause, Hier, le Conseil de sécurité des Nations Unies devait se positionner sur une résolution de cessez-le-feu à Gaza. Tous les membres ont voté pour, tous, sauf un, les États-Unis, qui ont opposé leur veto. Washington, dans la foulée, vivement critiqué par les 14 autres membres. Ce n'est pas la première fois qu'un arrêt des combats inconditionnels et immédiats est bloqué par les États-Unis. Et pour les Palestiniens, c'est une nouvelle désillusion, un nouvel affront. C'est un veto qui suscite la colère de l'autorité palestinienne. RFI Ramallah, Alice Froussard.
Pour beaucoup, le texte bloqué n'était déjà que le strict minimum. Tapant du poing sur la table, Majed Bami, l'ambassadeur palestinien adjoint à l'ONU, l'a martelé. Il n'y a selon lui aucune justification possible à un veto contre une résolution tentant de stopper les atrocités.
There is no right to mass killing of civilians.
Il n'y a aucun droit au massacre des civils. Il n'y a pas de droit à affamer une population civile entière. Il n'y a pas de droit au déplacement forcé d'un peuple et il n'y a pas de droit à l'annexion. Voilà tout ce que l'absence d'un cessez-le-feu est en train d'autoriser. Seul un cessez-le-feu permettra de sauver des vies, toutes les vies.
Le texte exigeait en effet un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent qui devait être respecté par toutes les parties. Et il demandait aussi la libération immédiate de tous les otages au moment où les négociations patinent et alors que la guerre s'enlise. Pour l'ambassadeur palestinien, cela fait des mois qu'Israël n'a aucune intention de laisser aboutir ce cessez-le-feu.
Si les efforts diplomatiques avaient abouti, nous ne serions pas là. Et nous saluons toutes les tentatives qui ont eu lieu jusqu'ici, tous les efforts déployés. Mais ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est qu'Israël ait un veto qui bloque chaque tentative de mettre fin à cette guerre.
Et s'adressant aux Américains, il insiste « Nous, Palestiniens, sommes pour une voie pacifique, même après tout ce qui s'est passé. » Alice Froussard, Ramallah, RFI.
La bande de Gaza et Gazaville, où la défense civile annonce la mort de moins 22 personnes ce matin dans une frappe israélienne. Dans la nuit, des dizaines de morts ont été rapportées par des sources médicales du côté de Jabalia. Et puis on apprend à l'instant que la Cour pénale internationale émet des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et contre Yoav Gallant. Autre cessez-le-feu en question dans la région, cette fois entre Israël et le Hezbollah. Sachez qu'Amos Hochstein, émissaire américain qui tente de faire aboutir un arrêt des combats entre les deux camps, est attendu ce jeudi en Israël, à la rencontre justement du Premier ministre Benjamin Netanyahou au lendemain d'une visite à Beyrouth où l'envoyé a fait part de progrès supplémentaires dans les discussions. Lui qui se base sur une résolution des Nations Unies qui avait déjà mis fin à la guerre précédente entre les deux camps, c'était en 2006.
Les Nations Unies, où un autre débat avait lieu hier, faut-il une fois de plus déployer des casques bleus pour lutter contre les gangs armés en Haïti?
C'est assez rare pour être souligné. Tous les États membres du Conseil de sécurité sont d'accord sur la situation humanitaire catastrophique sur place, sur l'insécurité qui explose et sur la souffrance des habitants. En revanche, l'idée d'une force de maintien de la paix, elle, ne fait toujours pas l'unanimité. Détail signé Vincent Sorio.
À l'avant-garde, il y a Washington. Les États-Unis estiment que c'est la meilleure option. Transformer l'actuelle mission multinationale d'assistance à la sécurité en une véritable force de l'ONU, seul moyen, selon l'ambassadrice américaine, de stabiliser Haïti et de soulager sa population. La Maison-Blanche peut s'appuyer sur la France, le Canada, le Brésil et les pays des Caraïbes, République dominicaine, Grenade, Jamaïque, qui s'inquiètent d'une contagion de la violence à l'échelle régionale et qui poussent en faveur d'un dispositif musclé. En face, il y a le scepticisme de la Chine. Au moins 150 morts en une semaine, 4500 décès depuis le début de l'année. C'est trop dangereux, d'après le représentant chinois aux Nations Unies.
Déployer une opération de maintien de la paix maintenant revient à placer les casques bleus en première ligne face aux groupes armés et à leur faire prendre des risques considérables en matière de sécurité.
De son côté, la Russie pointe le manque de légitimité des dirigeants haïtiens. D'après les diplomates russes, Haïti n'a plus d'autorité constitutionnelle depuis trop longtemps et compte tenu du fiasco des précédentes missions de l'ONU, la population haïtienne, poursuit la délégation russe, a raison d'être extrêmement prudente face à toute forme d'ingérence étrangère.
Vincent Sourio, Haïti, où d'après des chiffres dévoilés par le haut commissaire onusien aux droits de l'homme, au moins 150 personnes ont été tuées en une semaine dans la capitale, Port-au-Prince, Volker Turk dénonçant la violence des gangs.
La situation en Haïti, le chaos, on y reviendra avec notre invité juste après votre journal, notre invité Romain Lecourt, grand maison, docteur en sciences politiques. La France, dans ce journal La France, où les agriculteurs poursuivent leur mobilisation.
Et ils sont soutenus, toujours par une large part de la population, mais aussi par bon nombre d'élus locaux. Illustration au congrès des maires de France, à Paris, ces maires qui ont eux-mêmes des revendications vis-à-vis de l'État et qui sont donc largement solidaires du monde agricole. Victorien Villaume.
Le panneau de sa commune a beau avoir été arraché par des agriculteurs l'an dernier pendant une mobilisation, Ludovic Aublon, maire d'une ville de 10 000 habitants en Vendée, soutient sans hésiter ce nouveau mouvement.
Les normes, les excès de normes, de contrôle, c'est fou.
France soutient aussi de Jean-Marc Lanéry, maire de Ponsonna, village situé en Isère.
L'accord Mercosur, il est très dangereux pour effectivement l'agriculture française.
Et d'après lui, beaucoup, en particulier les maires ruraux, partagent ce sentiment.
Dans mon département, il y a eu une action un petit peu originale. Ils ont inversé les panneaux d'entrée d'agglomération. Ce qui était une façon spectaculaire de dire « ça va pas ». Ça n'a pas choqué mes collègues. Ils ont laissé les panneaux retourner.
Il est vrai aussi que si les maires n'ont pas autant de pouvoir que l'État, ils ont leur propre rôle à jouer vis-à-vis des agriculteurs, explique Christine Guillemy, qui porte l'écharpe tricolore en Haute-Marne.
Il faut qu'on préserve les terres agricoles. Et là, on a un rôle, notamment dans nos plans locaux d'urbanisme, pour promouvoir les circuits courts, l'alimentation saine dans nos restaurants scolaires et autres.
La compréhension mutuelle s'explique également par ce chiffre. Environ 15% des maires sont agriculteurs ou retraités agricoles.
Et c'est dans ce contexte que la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, va justement à la rencontre de la profession aujourd'hui dans le département du Pas-de-Calais.
L'actualité en France, également judiciaire.
Le procès de l'assassinat de Samuel Paty se déroule en ce moment et c'est au tour de Naïm Boudaoud d'être entendu. C'est l'un des deux amis d'Abdullah Anzarov, accusé de complicité d'assassinat terroriste. Naïm Boudaoud, lui, était présent lors de l'achat du couteau qui a été utilisé pour tuer le professeur d'histoire. Et c'est également lui qui a conduit Anzarov dans la ville de Conflans-Sainte-Honorine, la ville où exerçait Samuel Paty. Lui assure qu'il n'était pas proche du terroriste. Amélie Beaucourt, vous assistez au procès à la Cour d'assises spéciale de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Amélie, quelle semble être la nature de leur relation ?
Naïm Boudaoud, qui a 22 ans aujourd'hui, raconte avoir rencontré Anzarov lorsqu'il pousse les portes d'une salle de sport à Évreux avec son ami Azim Epsirkanov. C'est le jeune homme que la cour a entendu hier et qui est accusé lui aussi de complicité d'assassinat terroriste. Boudaoud, 18 ans à ce moment-là, manque de confiance en lui. Il est complexé par son physique et sa minceur. Dans cette salle de musculation, Anzarov lui donne des conseils sur les exercices à faire, la nutrition, et semble vouloir lui donner un coup de main, c'est tout. Ce n'est qu'à l'été suivant que son attitude change, rapporte Naïm. Il me dit qu'il fait les 5 prières, qu'il ne serre plus la main aux femmes, qu'il n'écoute plus de musique. Lui, il n'y connaît pas grand-chose. J'ai une petite amie chrétienne, explique-t-il. La prière, c'est occasionnel, c'est avant un examen, mais je m'en fiche un peu. Vous a-t-il déjà parlé de géopolitique ? Questionne le président. Jamais, la politique, ce n'est pas mon truc, avoue-t-il. De djihad alors, de musique djihad. Non plus, moi j'écoute Joule et la crime. Le président insiste en le confrontant à la radicalité des propos qu'Anzarov tenait sur ses réseaux sociaux. Naïm persiste et s'agace. Je vous dis qu'on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt et on ne se voyait qu'à la salle de sport. Il ne parlait pas de ça avec moi.
Amélie Beaucourt qui couvre le procès de l'assassinat de Samuel Paty pour RFI.
Après l'homme qui valait 3 milliards, la banane qui en vaut 6 millions.
Plus de 6 millions de dollars même pour une banane scotchée à un mur, une œuvre de l'artiste conceptuel Maurizio Catlan. Preuve encore une fois que le marché de l'art se porte bien. Cette semaine, une peinture de René Magritte a été vendue pour 121 millions de dollars. Cette fois, c'est un entrepreneur sino-américain qui a mis la main à la poche pour cette œuvre intitulée Comédienne, le récit de Sophie Torlotin.
6 200 000 dollars pour une banane accrochée à un mur avec du gros scotch argenté, cela fait cher le prix au kilo. Sotheby's présente pourtant Comédienne comme la banane la plus célèbre du monde. Dès sa présentation pour la première fois en décembre 2019, l'œuvre provoque la polémique. Elle est jugée obscène ou ridicule quand les critiques d'art évoquent le geste subversif de l'artiste provocateur Maurizio Catalan qui interroge la notion d'art et sa valeur. Le nouvel acquéreur, Justin Sun, est un collectionneur d'art chinois, également entrepreneur dans la crypto-monnaie. Il s'est vu confier un certificat d'authenticité de 14 pages et des instructions détaillées. Le fruit doit être accroché à 175 cm du sol, à un angle de 37 degrés, et il doit être changé toutes les semaines. Justin Sun a toutefois déjà promis de manger la banane pour en faire, je cite, une expérience artistique unique, un geste pourtant déjà effectué en 2019, quand un autre artiste l'avait croqué pour dénoncer son prix, 120 000 dollars à l'époque.
Voilà, 6 millions de dollars pour une banane, peut-être.
Il y avait quand même 7 acquéreurs.
Une bonne idée de cadeau de Noël, Charlotte, peut-être.
Un peu chéro. Nemo en Peace, à tout à l'heure, on vous retrouve dans deux petites heures. Direction les stades avec vous, Thomas de Saint-Léger, et les joueuses de l'OL qui sont déjà qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Championnes à deux journées de la fin de la phase de groupe.
Ouais, elles ont la banane, elles aussi, les Lyonnaises reçues 4 sur 4, 4 matchs, 4 victoires. La dernière hier soir face à l'AS Rome, 4-1, le score est flatteur. Les finalistes de la dernière édition ont longtemps buté sur la défense romaine. Elles ont même été menées avant d'égaliser dans le dernier quart d'heure et de dérouler complètement ensuite. Eugénie Le Sommer, l'une des attaquantes de l'OL.
On s'est dit à la mi-temps que c'était pas suffisant. Malheureusement, elles ont marqué en deuxième mi-temps et amené au score. Et je pense que l'équipe a montré pourquoi on était une grande équipe. On voulait pas en rester là et on voulait gagner ce match. Donc il y a une force collective qui s'est dégagée. C'est dommage de le faire après le but, mais le plus important, ça reste la victoire. Et personnellement, je me suis bien sentie. Et quand on rentre dans un match comme ça, forcément, ça fait toujours plaisir de marquer, d'aider l'équipe. Mais le job avait été fait avant. Il fallait continuer d'attaquer, continuer de marquer, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc le plus important aujourd'hui, c'est la première place du groupe. On est qualifié, donc c'est ce qui importe aujourd'hui.
Eugénie Le Sommer qui a marqué 2 minutes après son entrée en jeu le 3e but de l'OL, qualifié donc pour les quarts de finale, tout comme Chelsea. Les Blues ont dominé le Celtic 3-0, 11e victoire en 11 matchs, toute compétition confondue pour le club entraîné par l'ancienne internationale française Sonia Bonpastor.
En basket, les larmes de Paris sont séchées 3 mois après la finale des Jeux Olympiques perdue face aux superstars américaines. Les joueurs de l'équipe de France se retrouvent pour la première fois.
Dans une toute autre ambiance, à Chypre pour la 3e journée des éliminatoires de l'Euro. Nouveau contexte, nouveau visage aussi. Vincent Collet, le sélectionneur historique des dernières années, est parti. Frédéric Fautoux a pris sa place pour diriger un groupe très remanié aujourd'hui avec l'Euroleague et la saison de NBA qui se déroule en ce moment. Andrew Albici est le seul vice-champion olympique disponible et présent. Et il est content de voir le nouveau patron des Bleus prendre ses marques.
Tu sens qu'il est un peu encore timide, c'est vrai, c'est normal. Il y a toujours l'appréhension des premiers entraînements, d'un nouveau statut aussi. Mais pour l'instant, tout le monde est à l'écoute, tout le monde est très focus, donc ça se passe super bien. Nouveau personnage qui arrive, une nouvelle méthode, et ça fait toujours du bien d'avoir un peu de nouvelle fraîcheur. Moi, j'ai connu que Vincent, ça fait un peu bizarre, mais ça fait toujours plaisir de voir des nouvelles têtes, comme je dis. L'équipe est complètement différente aussi, donc ça fait une bouffée d'air frais, on va dire. C'est assez cool.
Andrew Albici, le meneur et capitaine de l'équipe de France de basket.
Ouais, des nouvelles d'autres personnages marquants de ces JO de Paris. Où est-ce qu'ils en sont, les petits prodiges français du tennis de table, Félix et Alexis Lebrun?
Les deux frangins vont plutôt bien. Ils sont à Fukuoka, au Japon, pour le tournoi final de la saison, l'équivalent, si vous voulez, des Masters en tennis. Et ils sont déjà qualifiés pour les demi-finales du tournoi de double. En simple, c'est un peu plus mitigé. Félix Lebrun est tombé dès le premier tour, battu par l'Allemand Duda. Alexis va jouer dans quelques minutes son match du premier tour face au Chinois Lin Shidong, le numéro 2 mondial.
Et puis un petit point sur le vent des globes avec le tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistante. Les premiers skippers sont toujours là dans la descente de l'océan Atlantique. Ils ont passé le poteau noir.
Ouais, cette zone très instable avec parfois peu ou pas de vent, très compliqué à négocier. Et celui qui s'en est le mieux tiré, c'est Thomas Ruyant, le Français leader de la course au dernier pointage avec quelques milles d'avance sur le Britannique Sam Goodchild. Les premiers bateaux sont encore très regroupés avant le passage de l'Équateur, prévu d'ici 24 heures pour les plus rapides.
Tout à l'heure, on fera le point avec vous sur cette course. Thomas de Saint-Léger pour l'heure 7h19 à Port-au-Prince.
RFI Le Monde à midi.
La capitale haïtienne contrôlée à environ 80% par les gangs. Situation chaotique là-bas. Les violences ont fait au moins 150 morts en une semaine. Bonjour Romain Lecourt, Grand Maison.
Bonjour.
Docteur en sciences politiques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, expert senior pour l'ONG Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée. Si vous le voulez bien, on va revenir d'abord sur les propos polémiques du président français Emmanuel Macron en marge de sa tournée en Amérique latine. Il a estimé que Gary Conille, donc l'ancien premier ministre haïtien limogé, était super, ils l'ont viré, dit-il. Qu'est-ce que vous inspire ces propos qui ont été tronqués, hein, on le souligne, selon l'Élysée?
Écoutez, je pense que la polémique était probablement évitable. En revanche, ce qui est sûr, c'est que sur les derniers mois, il y a une crise politique qui est réelle en Haïti, qui a vu l'affrontement politique entre le conseil présidentiel de transition, le CPT, et le gouvernement de Gary Conil. Ce conflit politique ayant mené à la révocation, au limogeage de Gary Conil le 11 novembre dernier. Donc, au-delà de la déclaration qu'on peut juger polémique ou non du président Macron, il y a une crise politique grave au sein des institutions haïtiennes qui ne font probablement qu'empirer la situation sur place et notamment la crise de violence que l'on connaît aujourd'hui.
Gary Conil remplacé par Alix Didier, fils aimé. Vous évoquez cette situation sécuritaire chaotique, notamment dans la capitale Port-au-Prince, des gangs de plus en plus armés. Qu'est-ce qu'ils veulent en fait, ces gangs? Quelle est leur stratégie?
Alors, il y a probablement énormément de choses qui nous échappent, évidemment, mais à mon sens, ce qui est important de comprendre, c'est que les gangs sont aujourd'hui positionnés comme des acteurs qui sont au cœur du système, si vous voulez. Ce sont des acteurs criminels, comme vous l'avez dit, très bien armés, qui contrôlent probablement plus de 85% de la capitale aujourd'hui, une grande partie du pays, presque toute l'infrastructure critique publique et privée du pays, une grande partie des frontières, voire probablement l'immense majorité des postes frontaliers avec la République dominicaine, la façade maritime, les ports, les routes principales, etc., etc. On a des acteurs qui sont au cœur du système et qui font pression sur le système pour se maintenir.
Mais du système, c'est-à-dire que vous pensez qu'ils sont manipulés, utilisés par les politiques, c'est ça?
Il y a probablement encore des liens entre le politique, l'économique et les gangs haïtiens, mais surtout par la capacité de contrôle territorial qu'ils ont. Vous ne pouvez pas faire sans les gangs aujourd'hui en Haïti. Vous ne pouvez pas faire marcher le pays au sens propre du terme sans passer par les gangs. Ce que cherchent, je pense, à faire les gangs, c'est à faire pression sur les autorités haïtiennes, sur la transition, sur la communauté internationale, pour, d'une façon ou d'une autre, être sûr de se maintenir en tant qu'acteur incontournable de cette transition, notamment par la violence, de montrer à tout le monde qu'ils tiennent toujours les rênes du pays et qu'il va falloir compter sur eux, quelle que soit la solution politique que l'on apportera à la crise haïtienne, ce qui est extrêmement troublant, évidemment.
Des gangs impliqués, on a vu aussi, notamment cette semaine, des groupes d'autodéfense impliqués, hein, avec la mort de plusieurs membres de gangs tués par la police, aidés par des habitants, donc des populations civiles qui, elles aussi, sont de plus en plus armées. Ça complique la donne, cette multiplication des acteurs?
Complètement. Je pense que vous l'avez très bien dit. Il y a une multiplication des acteurs qui portent des armes aujourd'hui en Haïti, notamment au sein de la capitale. Il y a des relations complexes, voire troubles parfois, entre la police et des groupes de vigilance. Les groupes de vigilance se forment en grande partie à cause de la situation sécuritaire et c'est difficile aujourd'hui de, disons, s'opposer normativement à la création de ces groupes dans la mesure où des groupes de citoyens ont légitimement envie, besoin de venir en aide à leur propre communauté, à leur quartier, et de trouver une façon d'y apporter de la sécurité. Le risque, à moyen terme, à court terme, moyen terme et long terme, c'est le développement de groupes de civils armés qui se sont multipliés pendant l'année 2024 et dont on sait, dans le cas haïtien et dans beaucoup d'autres cas sur la planète, qu'une fois que ces groupes sont créés, qu'ils sont très bien armés et qu'ils sont très bien installés, c'est très difficile de les démanteler. Donc il faut probablement prendre ce problème à bras-le-corps et trouver une réponse institutionnelle au mélange entre les civils et la police.
Mais il y a pourtant une mission multinationale sur place en Haïti. Elle est composée essentiellement de forces de l'ordre kényanes pour aider la police haïtienne. Lors d'une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU hier, les États-Unis ont plaidé pour une transformation de cette mission en force de l'ONU. C'est ce que demandent les autorités de Port-au-Prince. La Chine et la Russie sont contre. Pour vous, il faudrait la faire évoluer, cette mission?
Je pense que L'idée de transformer la mission en mission de maintien de la paix n'est pas forcément une mauvaise idée sur le papier, mais elle ne répond pas forcément à deux problèmes que l'on a face à nous aujourd'hui. D'une part, la MSS, la mission kényane, est sur le terrain.
Mais elle n'est pas complète.
Elle n'est pas complète, elle est surtout pas financée. C'est-à-dire qu'on a voté et on a autorisé le déploiement d'une force que la communauté internationale ne semble pas disposée à financer aujourd'hui. C'est-à-dire que la force kényane est entre le marteau et l'enclume, si vous voulez. C'est très hypocrite de lui reprocher de ne pas faire son travail quand on ne lui donne pas les moyens financiers, humains, opérationnels, logistiques de faire son travail. Aujourd'hui, on a une force qui est à moitié abandonnée à son sort sur le territoire haïtien. La même chose pour la police nationale haïtienne. Et on parle déjà de transformer tout ça dans un nouveau plan futur. Moi, l'idée de transformer tout ça dans un plan futur ne me paraît pas forcément une mauvaise idée. J'aimerais bien, en revanche, qu'on nous présente un plan stratégique clair, une ligne directrice claire qui réponde à la fois à la présence en ce moment de la MSS sur le territoire haïtien et pourquoi pas à moyen terme de sa transformation en une force internationale de maintien de la paix. En attendant, on a ni l'un ni l'autre.
Mmh. Donc il vaudrait mieux terminer, finir ce processus avant d'en lancer un autre. Le temps nous manque, malheureusement. Un grand merci à vous d'avoir été avec nous, Romain Lecourt-Grandmaison, docteur en sciences politiques de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Très bonne journée à vous et à bientôt.
Merci.
RFI à Bakou, où les discussions sont laborieuses avant la fin de la conférence climat prévue demain. Pas de compromis final à l'horizon pour l'instant. Ça négocie tous azimuts en coulisses. La COP en Azerbaïdjan, un pays critiqué pour son autoritarisme et surtout l'exploitation de ses nombreux gisements pétro-gaziers. Alors, à l'occasion de cette COP, à l'occasion de l'arrivée de milliers de journalistes venus couvrir la conférence, le pays essaie de promouvoir une vitrine verte. C'est un reportage sur place, signé Jeanne Jolou.
On arrive au port de Bakou, c'est l'un des ports les plus importants de la mer Caspienne. On est accueilli avec une immense photo du président Ilham Aliyev et cette inscription « Bienvenue dans le port vert de Bakou ».
Bienvenue dans notre pays, bienvenue à nos côtés. Je voudrais vous montrer ici nos différentes étapes vers un développement durable. Au niveau national, nous prévoyons de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2050.
Waouh, bravo, je suis très impressionné.
Ce que je ne comprends pas, c'est que vos émissions de gaz à effet de serre proviennent à 71% des navires qui débarquent ici. Comment vous comptez faire pour remplacer cela ?
Très bonne question. En fait, ça n'est pas comptabilisé, car ce sont des émissions indirectes. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment de notre responsabilité, vous savez. Il faudrait construire des bateaux qui fonctionnent avec de l'énergie électrique.
On vient d'arriver au stade olympique de Bakou. C'est là que se tient la COP 29. On a rendez-vous avec un représentant du pavillon azerbaïdjanais. Vous dites d'un côté vouloir vous tourner davantage vers les énergies vertes et à la fois vous avez prévu d'augmenter de 14% votre production de gaz et de pétrole dans les prochaines années. C'est pas un peu contradictoire ?
C'est pour cela que la COP existe, non ? C'est très important pour nous de parvenir à un bon rythme de transition vers les énergies renouvelables, car le gaz et le pétrole ne dureront pas éternellement, n'est-ce pas ? Et puis, c'est le cas de beaucoup de pays. Comme l'a dit notre président, il y a aujourd'hui une demande extérieure en énergie fossile. Nous répondons à cette demande, il y a un besoin. Et comme le président l'a dit, le pétrole, c'est un cadeau de Dieu à l'Azerbaïdjan.
Un cadeau de Dieu qui n'empêche pas à l'Azerbaïdjan de tout faire pour verdir son image à l'international. En ligne, des influenceurs sont payés pour mettre en avant les quelques projets renouvelables de l'Azerbaïdjan, sans jamais mentionner toutefois que le mix énergétique du pays repose encore aujourd'hui à 98% sur les énergies fossiles. Au lendemain de la guerre en Ukraine, l'Union européenne a signé un accord avec Bakou prévoyant de doubler les importations de gaz azerbaïdjanais afin d'atteindre au moins 20 milliards de mètres cubes par an d'ici 2027. Jeanne Joulou à Bakou, RFI.
La COP et les ultimes tractations en ce moment pour parvenir à un compromis final, hein, toujours pas d'accord, selon le chef de l'ONU pour cette COP 29 à Bakou. L'échec n'est pas une option. Presque midi et demi, temps universel, dans quelques secondes, Afrique Midi. Toute l'actu africaine, notamment au Mali, ce sera avec Nicolas Sur. À tout de suite.
Tout
tout à l'heure sur RFI.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Les représentants des 195 pays réunis pour la COP29 sur le climat à Bakou piétinent. Qu'est-ce qui bloque? Et si nous ne pouvons pas compter sur cette instance internationale, comment pouvons-nous affronter le changement climatique? Nous faisons le point avec nos invités.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.